C'est le printemps. Je pensais cette semaine, notre désir de vivre une vie avec un grand V, souvent ça gargouille un peu plus au printemps. C'est un désir universel de vivre la vie pleine, de vivre une vie épanouissante, de vivre une vie au maximum, de vivre une vie de qualité, de vivre une vie abondante. C'est-tu votre désir, ça? C'est-tu péché, ça, de vouloir vivre au max? Dieu vous a créé avec ce désir-là d'une vie épanouissante, de pour vivre pleinement. Il veut ça, il a placé ce désir-là en vous. Jésus aussi a eu le même désir pour nous. Il a dit qu'il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. C'est son désir aussi. Pourtant, cette vie avec un grand V, cette vie au maximum, elle semble souvent nous échapper. Souvent, c'est l'hiver. Le froid de l'hiver nous a isolés. On s'est renfermés dans notre confort personnel. Souvent, dans notre isolement, on a commencé à regarder à nos difficultés matérielles. Ce que nous, on n'a pas, puis que le voisin a. On a commencé à regarder nos problèmes de santé, puis on s'est encore refermé. On a eu, comme plusieurs, des difficultés relationnelles. Et à tout bout de champ, il semblait avoir de ces obstacles-là à la vie abondante qu'on recherche tous. Mais ce matin, je me dis, après l'hiver, c'est le mois de mai. Après l'hiver, c'est le... J'entendais longtemps dans le passé, c'était supposé être le mois le plus beau, là. Pour d'autres raisons, par exemple, mais c'est un beau mois. C'est au printemps, l'espoir renaît. Le soleil fait revivre. Les oiseaux chantent autour de chez nous. Les arbres commencent à bourgeonner. Les champs reverdissent. Et c'est beau, c'est excitant, ça revit. C'est le temps de l'amour, c'est le temps du renouveau. C'est le temps de sortir son vélo, puis en sortant son vélo, d'évaluer la condition mécanique de notre vélo, puis se remettre à l'entraînement pour jouir à nouveau des effets bénéfiques, autant immédiats qu'à long terme de l'entraînement. Et voyez-vous, au plan spirituel, ça va être pareil. Le printemps devrait nous amener à sortir à nouveau de notre isolement, à créer des nouveaux liens, ou encore à restaurer d'autres liens qu'il y avait avec d'autres, à développer des liens les uns avec les autres. Le printemps devrait être aussi, pour nous, un temps de croissance pour qu'on puisse vivre au max. Tant comme individu, qu'en couple. C'est beau de voir les oiseaux qui se bécotent sur les bancs publics. Et peut-être qu'au mois de mai, c'est le bon temps aussi pour les couples de se bécoter sur les bancs publics. C'est le temps de prendre la chaleur, de développer des liens. Et ça, c'est spirituel aussi, de créer des liens dans le couple, dans la famille. Créer des liens aussi dans l'Église avec les croyants. Alors ce matin, je vais vous poser la question, comment est-ce qu'on peut développer ça? Comment est-ce qu'on peut développer ou retrouver la forme pour vivre au max? Et savez-vous quoi? Il y a un texte des Écritures qui en parle. Il y en a beaucoup, je m'imagine. Mais j'aimerais qu'on se concentre sur 2 Pierre, chapitre 1, ce matin. C'est Pierre, c'est sa dernière lettre avant de quitter cette terre. Il a dit qu'il va quitter bientôt dans la lettre. Et il écrit ses dernières volontés aux chrétiens qui sont dispersés dans le monde. 1 Pierre chapitre 1 nous dit que c'est à peu près dans toute la Turquie présente, Bithynie, Asie, en différents endroits, le Pont, la Cappadoce, la Galatie, tout ce qu'on a dans la Turquie moderne, Pierre écrit à ces gens-là. Parce qu'ils ont besoin d'encouragement pour vivre au maximum leur foi chrétienne. Pierre en a vécu des printemps et des hivers. Sa deuxième lettre est probablement après 40 ans de ministère. Il a vu des hauts, il a vu des bas dans la vie chrétienne des gens. Et il nous dit au chapitre 3, verset 1, qu'il va chercher à éveiller par des avertissements leur saine intelligence. Il va vouloir éveiller leur vision spirituelle à ces chrétiens qui sont dispersés, qui sont étrangers, mais qui sont aussi élus de Dieu. Puis en s'adressant à eux, dans le premier chapitre, les 11 premiers versets, il va rappeler aux croyants d'abord ce qu'ils ont reçu avec leur salut. Et comment maintenant, ayant reçu toutes sortes de bénédictions avec leur salut, comment ils peuvent se maintenant mettre à l'entraînement pour être capables de jouir d'une vie utile, d'une vie productive, d'une vie au maximum. Voyez-vous, je regarde ce texte-là, puis je me sens aussi concerné par la vigueur de nos croyants, la vigueur spirituelle de nos croyants ici à Beauport. Ouais, l'hiver a été long ici pour nous. Je suis persuadé que vous êtes d'accord avec ça. La motivation, la vigueur de plusieurs n'est pas présentement à son niveau optimal. Et nos relations dans le corps de Christ ont besoin d'être tissées, peut-être plus serrées qu'ils le sont présentement. Et voyez-vous, comme pasteur, je suis pas différent des autres. Moi aussi, j'ai besoin d'être rappelé comment retrouver ma forme spirituelle pour vivre au max. Alors, ce message de Pierre va s'adresser à vous, mais il s'adresse à moi parce que moi aussi, comme vous, je voudrais vivre au max. Je voudrais me rappeler ce que j'ai reçu en Dieu. Je voudrais me remettre à l'entraînement. Puis je voudrais jouir des fruits présents puis éternels d'une vie vécue au maximum. Pour Dieu. Courbons-nous devant Dieu quelques instants. Oh Seigneur, nous allons ouvrir ta parole. Pierre avait à cœur que les croyants puissent vivre une vie épanouie et nous avons ce même désir. Alors Seigneur, prends ces paroles de Pierre qui sont les tiennes en réalité et applique-les à nos cœurs. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'être restaurés. Nous avons besoin d'être affermis pour, Seigneur Dieu, vivre la vie abondante que tu désires que nous vivions pour ta gloire, pour notre bien-être aussi. Au nom de Jésus, nous te le prions. Amen. Alors, vous avez trouvé le deuxième épître de Pierre, le premier chapitre. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, et à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Pierre a le désir de communiquer aux croyants dispersés et étrangers comment vivre une vie au maximum. Et pour vivre une vie au maximum, Pierre leur mentionne qu'ils doivent d'abord réaliser ce qu'ils ont reçu, réaliser l'équipement qu'ils ont reçu. Et il y a des belles choses que nous avons reçues, nous aussi, comme croyants. D'abord, il dit que le croyant, il a reçu un appel divin. Il dit, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Pierre, il mentionne que nous avons été appelés au salut. Lui aussi a été appelé au salut pour devenir un serviteur, pour devenir un apôtre de Jésus-Christ. Il avait été, lui, comme les chrétiens de la Turquie, avait été élu de Dieu. Est-ce que vous réalisez ça ce matin? Que chacun de nous, nous avons été choisis pour le salut. Dieu avait voulu être notre ami, comme on a chanté. Il nous a sauvés. Il nous a appelés. Et celui qui nous a appelés, c'est pas n'importe qui. Il nous a appelés par sa propre gloire. On était appelés par un Dieu splendide, un Dieu majestueux, un Dieu tout-puissant, un Dieu de gloire. Un Dieu aussi de vertu, par sa propre vertu, un Dieu d'excellence morale. Quand vous considérez la nature, les attributs, le caractère de Jésus-Christ, le caractère de Dieu, il n'y a rien de honteux là-dedans. C'est vertueux. Et c'est celui-là qui est venu vers vous, qui est venu vers moi. Puis il a dit, je t'appelle. Je t'appelle à marcher avec moi. Je t'appelle à prendre le joug avec moi. Je t'appelle à venir avec moi parce que je veux te donner une vie abondante. On était appelés par un Dieu aussi de justice. Par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Le chrétien a reçu un appel de Dieu. Quel privilège! Quel équipement! Le chrétien aussi a reçu, il nous est dit dans le verset 1, une foi du même prix que celle de Pierre et des apôtres. Plusieurs commentateurs vont dire que cette foi-là, c'est la capacité de faire confiance. Vous avez reçu la capacité de croire, la foi comme étant un don de Dieu, la foi subjective. Je préfère comprendre ce texte-là différemment. Je pense plutôt que nous avons reçu en partage, comme il mentionne, la foi chrétienne, l'héritage de la foi chrétienne, toutes les ressources de la foi chrétienne. Quand vous avez reçu le Seigneur Jésus, il a placé en vous un dépôt de croyances, de valeurs, de principes qui sont venus en vous et que Dieu voudrait que vous vous en serviez pour donner direction à votre vie, pour structurer votre vie chrétienne. Si vous étiez à l'école du dimanche avec Dominique, vous verriez qu'il vous a parlé d'une équipe de football avec un ballon. Ça serait la foi chrétienne. Vous l'avez reçu. Ce dépôt des croyances, des valeurs, des principes, des ressources, vous l'avez reçu en partage. Vous l'avez reçu en dépôt à vivre pour vous-même, à transmettre cet enseignement que vous avez reçu. Oh, c'est la même chose que 2 Timothée, chapitre 1, les versets 13 et 14. Paul y mentionne un peu ce même principe de cette foi objective, de ce dépôt de la vie chrétienne, de la foi chrétienne. 2 Timothée, chapitre 1, verset 13, Paul y dit, c'est lui aussi, c'est sa dernière lettre, c'est son dernier message. Il rappelle ce dépôt-là que les croyants ont reçu. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt. Garde ce dépôt-là. Un peu plus loin dans Tite, Paul, il va dire la même chose à peu près à Tite au chapitre 1, verset 4. Il dit, « À Tite, mon enfant légitime, en notre commune foi, dans cette foi chrétienne qui nous est commune. » Jude, le troisième verset, va penser de la même chose. Il dit, « Je vous ai écrit afin que vous puissiez combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Le chrétien a reçu en héritage, a reçu, comme le texte nous mentionne, en partage avec les uns avec les autres, une foi chrétienne, une foi commune. Et savez-vous quoi? Est-ce que vous trouvez la foi de Pierre excitante? Ce qu'il a fait? On étudie à l'école du dimanche, acte 2, les premiers chrétiens. Est-ce que vous trouvez la vie chrétienne des premiers chrétiens excitante? Évidemment, Pierre, il dit, vous avez reçu en partage la même foi que la nôtre. Vous avez reçu les mêmes ressources que moi, que les apôtres. C'est une foi commune. Que vous soyez libre ou esclave, que vous soyez jeune ou vieux, que vous soyez apôtre ou serviteur, cette foi que Pierre avait, ce dépôt d'enseignement et de ressources et de valeurs, elle nous a été donnée. Dieu l'a placée en nous. Vous l'avez reçue aussi en partage lorsque vous êtes chrétien. Et cette foi-là, il nous a dit, elle est précieuse. Elle est du même prix que la nôtre. Qu'est-ce que ça l'a coûté pour que Pierre reçoive tout l'héritage de la foi chrétienne? Un grand prix. Qu'est-ce que ça l'a coûté pour Dieu, pour vous donner l'héritage de la foi chrétienne? Un grand prix, c'est une foi qui est précieuse. Elle a été obtenue sur la base légale de la justification divine. Puis elle a été acquise au prix du sang de Jésus-Christ, au prix du sacrifice de Jésus-Christ. Pierre va dire dans sa première épître, chapitre 1, verset 19, il dit, « Vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre. Vous aviez des valeurs, des principes, des choses qui vous animaient, mais vous avez été rachetés de cette vieille, de cette mauvaise manière de vivre. Comment? Par le sang précieux. » Par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Cette foi que vous possédez, cet héritage de la foi chrétienne que vous avez, elle est précieuse. Vous avez reçu un appel du Dieu de gloire, du Dieu d'excellence morale. Vous avez reçu un coffre à outils de ressources merveilleuses qui est la foi chrétienne, de valeurs, de principes. Vous avez reçu aussi la connaissance intime de Jésus. Verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu. Et dit au verset 3, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de Dieu. Vous avez reçu une connaissance intime de Jésus. C'est quoi être sauvé? C'est d'abord recevoir d'avoir une relation personnelle avec Jésus. Pas simplement une simple connaissance intellectuelle. Le grec ici va jouer avec deux mots à travers le texte. Il va jouer avec le mot gnosis, la connaissance intellectuelle. Mais ici, il parle de épignosis, une connaissance une par-dessus l'autre, une connaissance intime, une connaissance directe, une connaissance relationnelle. Et savez-vous quoi? Quand vous avez reçu Jésus, vous n'avez pas simplement appris des choses de lui, mais vous êtes entré dans une relation personnelle avec Jésus. Vous lui avez dit de prendre la place du roi. Vous lui avez dit de vivre sa vie à travers vous. Vous avez reçu par le salut une connaissance intime de Jésus-Christ, personnelle. Et ça l'a produit la grâce du salut. Ça l'a produit la paix qui en découlait. Et il nous a dit que cette grâce et que cette paix continue d'être multipliée à travers cette relation intime de plus en plus complète avec Dieu. Avec Jésus-Christ, que la puissance de Dieu, sa divine puissance nous a été donnée. Comment? Par le moyen de la connaissance. Vous avez reçu grâce, paix, puissance à travers cette relation avec Jésus-Christ. Pierre va employer 16 fois dans sa deuxième épître ce mot « épignosis ». Cette connaissance intime. Ce soir, on va en parler. On va étudier ce mot-là à travers notre étude. Ça va être plus interactif ce soir, mais on va voir ça. Peut-être que cet après-midi, vous pourriez lire 2 Pierre. Aïe, ça, c'est long. 3 chapitres, ça va vous prendre à peu près 7 minutes au max, lire tout ça, là. Alors, c'est un bon défi, prendre 7 minutes, lire 2 Pierre, chapitres 1 à 3, et peut-être souligner tous les endroits où vous voyez la notion de connaissance, de savoir, de ignorer, qui est le contraire de savoir, de connaître, c'est ignorer. Vous marquez ça. Et ce soir, on va travailler avec ça. On va regarder ça. Le chrétien a reçu un appel divin. Le chrétien a reçu un coffre à outils de ressources précieuses. Le chrétien a reçu une intimité personnelle avec Jésus. Et non seulement ça, le chrétien a reçu la nature divine en plus. Il dit au verset 4, « Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. » Lorsque le salut vous a été communiqué, il vous a été communiqué avec une valeur ajoutée. La troisième personne de la Trinité est venue habiter en vous. Non seulement le jour de votre salut, vos péchés ont été pardonnés, non seulement vous avez été réconciliés avec Dieu, il n'y avait plus d'inimitié, mais Dieu a investi en vous sa propre nature. C'est pour ça que vous êtes devenus des enfants de Dieu. Réalisez-vous ça que Dieu est venu habiter en vous par la présence du Saint-Esprit. Et là, quand j'ai besoin de marcher puis j'ai besoin de confronter un péché, je dis « je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. » Dieu dit « regarde l'appel que je t'ai donné. Regarde les outils que je t'ai donnés. Regarde l'Esprit de Dieu que j'ai placé en toi. » Regarde le fait d'avoir un ami, d'avoir une relation personnelle avec Jésus. Tu as toutes les ressources. Ce qui triomphe du monde, c'est votre foi, comme j'entendais ce matin. Le chrétien a reçu une nature divine. Il est devenu participant de la nature divine. Pour que nous avons été absorbés dans la divinité cosmique, ça c'est le panthéisme, ça c'est le nouvel âge. Je suis devenu partie du grand Dieu cosmique. Pas de ça. Mais c'est plutôt le Dieu du ciel qui est venu en nous pour nous transformer à son image. Ça, c'est merveilleux. On n'a pas été absorbé par la divinité, mais la divinité est venue prendre place en nous communiquant son être, en nous communiquant ses attributs. Et par conséquent, c'est quoi être chrétien? C'est d'être progressivement transformé du « moi » au « lui » à Dieu. Moi, j'ai écrit mes notes hier. Dominique dit la même chose ce matin. C'est drôle, c'est excitant de voir l'Esprit de Dieu à l'œuvre. Mais qu'est-ce que c'est d'être chrétien? C'est d'arrêter de baser tout sur moi et de laisser Dieu agir avec puissance en moi, que je devienne lui. Ça, c'est la transformation. Et cette capacité-là nous a été donnée. Comment est-ce qu'elle nous a été donnée? Bien, il nous dit c'est en fuyant la corruption de ce monde. Bien entendu, c'est en fuyant le moi, mais par la convoitise, il mentionne. C'est en fuyant cette corruption du monde qui détruit l'âme par les convoitises, par des désirs insatiables de la chair, des yeux, l'orgueil de la vie. De abandonner ce moi pour être transformé à l'image de Dieu. Et étant transformé à l'image de Dieu, de le refléter dans le monde. Ça, c'est l'équipement que nous avons reçu. Or, être chrétien, c'est posséder un potentiel merveilleux et inépuisable pour vivre au max. C'est d'être complètement équipé pour jouir des plus grandes et des plus précieuses promesses de Dieu. Réalisez-vous cet équipement de Dieu dans votre vie? Dieu veut que vous ayez une vie en abondance. Mais la base pour vivre cette vie en abondance, c'est de, premièrement, considérer les ressources que nous avons reçues. Puis une fois que je regarde les ressources que j'ai reçues, bien là, je peux me mettre à l'entraînement. Je peux me mettre, la Bible dit, faire tous ces efforts pour avancer. C'est pas suffisant de regarder le hockey. Puis de regarder comment ils sont bons ou qu'ils sont pouiches, je ne sais pas, pour devenir un bon joueur. C'est pas suffisant de regarder à TV le Tour de France pour être capable de se mettre en forme au vélo. Cette semaine, en jouant au hockey, je vais être bon, alors je ne veux pas juste regarder à TV. Hein? Mais je quitte avec un joueur de hockey puis à l'aréna des Deux Glaces à Val-Bélair, puis il me fait remarquer le moyen de transport par lequel les enfants viennent à la polyvalente d'enseignerette, les personnes secondaires, et dit, « As-tu vu la grande rangée de scooters? » Il y avait au moins 20 scooters. Et à côté des 20 scooters, il y avait des racks à bicycles. Il y en avait à peu près 7 bicycles. Il m'a dit, « As-tu vu, toi? Comment les gens vont devenir en forme? La grande rangée de scooters, puis à peu près 7 bicycles. » C'est pas juste de j'ai besoin de mettre à l'entraînement. Savoir, c'est pas assez. Pierre, il dit, à cause de cela, à cause que vous savez ça, maintenant, mettez tous vos efforts dans les versets 5 à 7. À cause de cela même, à cause de l'équipement que vous avez reçu, ben là, go! Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. C'est à notre tour maintenant, quand je considère l'équipement que j'ai reçu, de faire tout l'effort nécessaire pour jouir de la vie au maximum. Puisqu'on a reçu le forfait complet et précieux de tout ce qui contribue à la vie et à la piété, ben maintenant on doit joindre le meilleur de nous-mêmes pour nous entraîner. J'aime le mot « joindre ». Il dit « pour joindre » épicoregeo. C'est la notion de ajouter généreusement des couches l'une par-dessus l'autre. À l'origine de ce mot-là, il y avait les grandes représentations musicales ou théâtrales grecques. Alors, il y avait des solistes, il y avait des choristes, mais il y avait toujours un riche qui disait, « Moi, je m'en vais vous équiper de tous les équipements que vous avez vus parce que je veux que votre représentation, elle soit de grande qualité. » Alors, le « corège » dont le verbe « epikorego » est là, « koregeo », était cette personne-là qui ajoutait, « Tu es un chanteur, tu as besoin d'une flûte, je vais te joindre la meilleure chose. T'es un musicien, je vais te donner le meilleur instrument. Je vais construire un amphithéâtre que le meilleur acoustique. Je m'en vais joindre, je m'en vais équiper, je m'en vais ajouter une par-dessus l'autre toutes les ressources que tu as besoin pour performer au maximum. » Et Pierre dit aux croyants, c'est à notre tour maintenant. Dieu nous a donné des choses, mais c'est à notre tour maintenant de joindre à notre foi initiale, de joindre des couches généreuses de vertus chrétiennes qui vont nous aider à jouir au max de la vie que Dieu a planifiée pour nous, de la vie dont Dieu nous a donné les ressources pour vivre. Additionnez généreusement à votre confiance en Jésus, à votre confiance initiale de la foi, des valeurs chrétiennes. Et là, il parle de valeurs, je dirais, très personnelles. Après ça, il va parler de valeurs plus interpersonnelles pour terminer avec la valeur ultime. Il commence à dire, joignez à votre foi la vertu. Cette excellence morale dans ce que vous faites. On dit d'un pianiste qu'il est vertueux quand il s'efforce à donner le meilleur de lui-même et il va jouer avec excellence. On va parler d'un mari vertueux. Ouh, ça n'arrive pas souvent, ça. La Bible, elle parle de la femme vertueuse. Oh, ça... Joignez la vertu. Joignez l'excellence morale. Soyez des maris vertueux, des épouses vertueuses qui jouent magnifiquement leur rôle et qui va faire du foyer un endroit où la musique va éclater. La belle musique va éclater. Joignez à votre foi initiale en Jésus-Christ la vertu, l'excellence morale. Joignez-y aussi la connaissance. On avait le mot connaissance tantôt, c'était épignosis. Ici, c'est la connaissance gnosis, la connaissance intellectuelle, la connaissance de base. Joignez-y l'étude des doctrines de la volonté de Dieu. Comprenez les Écritures. Sachez, comprenez quelle est la volonté de Dieu. Vous connaissez 2 Timothée 3:16, toute Écriture est inspirée de Dieu. Eh bien, belle, hein, est inspirée de Dieu. Elle reste là? Non, elle est utile pour enseigner, pour nous convaincre quand on s'en va un petit peu croche. Pas juste pour nous dire ça va mal, pour nous aussi, pour nous corriger, pour nous instruire dans la justice. Pourquoi? Afin que l'homme ou la femme de Dieu soit mature, prêt à toute bonne œuvre. Joignez tous vos efforts. Mettez une couche de vertu. Mettez une autre couche de connaissance de la parole de Dieu. Mettez une autre couche de maîtrise de soi, de modération, de contrôle devant nos désirs, devant nos appétits, comme dans toutes les autres facettes, comme devant toutes les autres exigences de la vie. Mettez-y de la maîtrise de soi, de la modération, ça avait un meilleur goût. Des vertus personnelles. Mais aussi, faites pas juste joindre des vertus qui vont vous équiper personnellement, mais joignez-y des vertus qui vont vous aider dans vos relations les uns avec les autres. Ajoutez-y la patience, une bonne couche de patience. Mettez-en épais. La patience, la piété, l'amitié fraternelle. Mettez-y de la patience, cette endurance à conserver une bonne attitude dans l'affliction. Ça vous arrive-tu, ça, d'avoir des afflictions? Soyez patient. Mettez tous vos efforts pour ajouter une couche de bonne attitude dans l'affliction, d'endurer. Oh, parce que vous avez une relation avec Dieu, bien entendu. Parce que l'Esprit de Dieu vous rend capable. Parce que le fruit de l'Esprit, c'est justement ça, la patience, la douceur. Alors, c'est pas juste vous qui allez travailler fort pour être patient. Donne-moi la patience, Seigneur, puis donne-moi la suite. Pas ça. Vous avez la ressource déjà en Dieu. Dans votre communion, dans votre connaissance de Jésus-Christ, laissez éclater la patience de Christ à travers vous. Puis laissez-la sortir en masse. Beurrez épais. Joignez cette notion-là. Couvrir, additionner généreusement, adjoindre. La piété aussi. Faites tous vos efforts pour travailler à la piété, à la régularité dans vos disciplines spirituelles. Dans la régularité à passer de la communion avec Dieu. De la communion les uns avec les autres. La piété, la régularité dans nos disciplines spirituelles envers Dieu. Prenez du temps aussi pour joindre l'amitié fraternelle. Philadelphia. T'sais, Philadelphie, t'sais, ça donnait bon. Hein? Ça sonne populaire de ce temps-là. Là. La Philadelphie. La Philadelphia, c'est la bonté naturelle envers les frères. Mettez-en en masse la Philadelphie. De l'amitié fraternelle. De la bonté naturelle pour leur faire du bien, pour être loyal, pour les aider à porter leur fardeau. Mettez-en de ces vertus interpersonnelles. Puis si vous avez de la misère avec la mémoire, à vous en rappeler des 6 premières vertus, rappelez-vous de la dernière. Et à l'amitié fraternelle, l'amour, agapé. Le don sacrificiel de soi. Puisque vous avez reçu tellement de Dieu, vous êtes en communion avec Dieu, laissez-le déborder pour que finalement ça soit lui qui aime à travers vous. Laissez l'amour déborder en considérant le besoin de l'autre, en intervenant malgré le coût que ça peut vous occasionner. Vous avez tellement reçu. Sa divine puissance vous a donné tout ce qui contribue à la vie abondante, à la piété. Par conséquent, mettez-vous à l'œuvre, entraînez-vous, parce que finalement, pour vivre au max, vous allez pouvoir anticiper les bons résultats, anticiper la gloire à venir. Lorsqu'un chrétien comprend tout le potentiel que Dieu lui a donné et puis qu'il y ajoute tous ses efforts de développer les vertus chrétiennes, ben les fruits merveilleux d'une vie abondante, d'intimité toujours plus grandissante avec le Seigneur Jésus, se manifestent. progressivement. Le texte il dit, à partir du verset 8, « Si ces choses sont en vous, puis ils sont avec abondance, ben vous ne serez pas oisifs ni stériles pour la connaissance, encore épignosis, pour la connaissance intime que vous aurez avec le Seigneur Jésus-Christ. » Si ça, c'est en vous de joindre ces vertus chrétiennes, votre vie va devenir plus utile. Vous ne serez pas oisif. Votre vie va devenir plus active. Elle va devenir plus efficace. Plutôt qu'être apathique, inutile, plate. Il dit que non seulement vous ne serez pas oisif, mais vous ne serez pas non plus stérile. Vous ne serez pas sans fruits. Vous allez avoir une vie qui va être de plus en plus productive, fructueuse, à refléter Jésus, plutôt qu'un arbre sec sans fruits. Non seulement votre vie va être plus utile, plus productive, mais votre foi va être affermie. Verset 10, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Votre foi va être affermie. Vous allez considérer avec gratitude le passé, votre élection, votre appel de Dieu. Et vous allez aussi considérer la perspective future, la vocation. Ça va être de plus en plus clair. Contrairement à celui qui ne met pas tous ses efforts, la Bible dit, il va oublier ce qui est arrivé dans ses vieux péchés. Il va oublier l'œuvre de Dieu dans sa vie. Il va être aveugle, ou le mot qui est là, il va avoir les paupières lourdes, il va avoir les yeux fermés, il ne verra pas qu'est-ce qui se passe autour de lui dans le présent. Puis il va être myope pour ce qui concerne le futur. C'est pas très utile, ça. Pas voir en avant, être myope. Votre foi va être affermie. Et vous allez avoir une plus grande anticipation du ciel. Au verset 11, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Accordée, c'est le mot joindre, épicorégéo, comme on a mentionné tantôt. Dieu va être ce grand corège maintenant qui va vous accorder richement l'entrée dans le ciel. Ça va être en joignant tous vos efforts à ce que vous avez reçu, vous allez anticiper les bons résultats du ciel, d'une assurance d'avoir une entrée large, accueillante, pourvue richement par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui va vous attendre et qui va dire, « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Mais qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Tu m'as laissé agir à travers toi. Ça va l'attente du ciel. Oh, comment est-ce qu'on peut vivre au max? Comment est-ce qu'on peut avoir une vie pleine, abondante, épanouissante? Premièrement, assurons-nous de la base de notre foi. Faire des efforts pour plaire à Dieu sans la présence ni la puissance de l'Esprit, c'est tenter de gagner son ciel par les œuvres. Puis c'est bien décourageant. Parce qu'on ne peut pas arriver à vaincre le péché par nous-mêmes. Alors, on doit s'assurer d'abord de ce que nous avons reçu, de ce que nous soyons sauvés. Nous devons nous assurer aussi d'une communion soutenue avec Jésus. C'est Dieu qui doit diriger nos pensées et nos cœurs. C'est Dieu qui doit agir dans ma vie pour me communiquer sa vie abondante. Où est-ce que tu en es, toi, dans ta relation, dans ta communion soutenue avec Jésus? Est-ce que tu dis, « Christ est ma vie ». Est-ce que tu dis, c'est Christ qui vit en moi? Ou tu trouves la vie chrétienne lourde parce que tu essaies de la vivre par tes propres forces? Assurons-nous d'une communion soutenue avec Jésus-Christ. Et assurons-nous de nous exercer aussi à fond pour développer les vertus essentielles à notre maturité chrétienne. On doit identifier de ces données-là, de la recherche de l'excellence dans ma vie. La connaissance, la maîtrise de soi, la patience, la piété, l'amitié fraternelle, l'amour. Je dois identifier les domaines à travailler particulièrement pour refléter davantage le caractère de Christ. Et voyez-vous, c'est pour ça qu'on aura la table du Seigneur. Parce que la table du Seigneur, c'est un temps de faire un miroir. Jésus, voilà, qu'est-ce que tu fais pour moi? Et Seigneur, je veux te refléter. Alors, comment ces vertus, ces attributs divins qui étaient en toi, comment est-ce qu'ils se reflètent dans ma vie? C'est un temps d'évaluation et d'engagement. Puis assurons-nous aussi, parce que ce n'est pas garanti qu'il n'y aura pas de difficultés matérielles ou de santé ou de difficultés interrelationnelles. Mais assurons-nous de garder les yeux sur le résultat final, le point culminant de vivre au max. Ça, c'est le ciel, le royaume éternel avec Jésus. Selon le chant qu'on chante quelquefois, « dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. » Gardons ses yeux fixés sur Christ. Oh, Seigneur Dieu, merci. Parce que le désir, ton désir pour nos vies, c'est d'avoir une vie abondante, une vie fructueuse. Et Seigneur, tu as tant investi dans nos vies pour qu'elles se produisent. Seigneur Dieu, donne-nous de recevoir avec gratitude ce que tu as investi dans nos vies et d'y adjoindre nos meilleurs efforts pour manifester les vertus chrétiennes, sachant qu'à travers cette communion avec Jésus qui va nous aider à manifester ces vertus chrétiennes, notre foi va être affermie, notre vie va être fructueuse. Et Seigneur Dieu, notre anticipation du ciel va être réelle, va être fraîche. Oh Seigneur, manifeste ta vie dans nos vies. Glorifie-toi. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. J'inviterai Rénal à nous conduire pour la table du Seigneur.
J'aimerais inviter les musiciens qui vont jouer et de s'approcher tout de suite pour la table du Seigneur.
Des ressources que Dieu nous a données et que la table du Seigneur est ce moment d'évaluer comment je vis ces ressources-là. La table du Seigneur est un mémorial, est un rappel de l'investissement de Dieu dans nos vies. Jésus s'est incarné, il a quitté son ciel, il est venu sur la terre. Il est venu souffrir pour payer pour nos péchés. Il est venu verser son sang pour nous pardonner, pour nous donner une nouvelle alliance. Et il est reparti, il a dit, j'ai envoyé mon esprit. Et pour chacun de nous maintenant qui sommes des vrais croyants, c'est-à-dire des gens qui ont compris ce message-là de la personne de Jésus puis de son ministère, qui se sont appropriés dans leur vie, ils ont été sauvés, ils se sont convertis, ils ont accueilli ce salut-là. Et qui l'ont professé publiquement dans la famille chrétienne à travers le baptême par immersion. Mais ces personnes-là sont appelées régulièrement